Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Blaise Zainda. Il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Bonjour, monsieur Blaise Zainda.
Bonjour, Guy Maté.
Maître Stéphane Kamundala, membre de la société civile, il est président de la société civile Force Vive de la province d'Imaniema. Il est également avocat au barreau établi près de la cour d'appel de la même province. Bonjour, maître Stéphane Kamundala.
Bonjour, monsieur Guy Maté.
Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde, elle est chef du service Afrique. Bonjour Madame Anna Sylvestre.
Bonjour Guy et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zainda, journaliste indépendant. Il est manager des médias. Maître Stéphane Kamundala, membre de la société civile. Il est président de la société civile Force Vive de la province d'Imaniema. Il est également avocat au barreau établi près de la cour d'appel de la même province. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre. Elle est journaliste au journal Le Monde. Elle est chef du service Afrique. Au menu de cette émission, arrestation du journaliste Stani Boujakera, de nouveaux affrontements entre les M23 et les Wazalendo Arutshuru au Nord Kivu, et enfin, processus électoral en RDC, élection de décembre 2023, réalité ou utopie. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la Journée internationale de la démocratie. En effet, c'est en 2007 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 15 septembre Journée internationale de la démocratie dans le cadre d'une résolution visant à encourager les gouvernements à renforcer et à consolider la démocratie. Depuis lors, cette journée est célébrée chaque année dans le monde entier. Blaise Zainda, que vous inspire la célébration de cette Journée internationale de la démocratie ?
Je suis particulièrement très attaché aux valeurs démocratiques et je pense que le pays devrait l'être dans la mesure où la dénomination même du pays porte sur la démocratie, c'est la République démocratique du Congo. Et comme acteur de la société civile, puisqu'étant journaliste, je pense que nous sommes dans un pays qui est considérablement composé d'une forte population et laquelle population devrait, de manière plus ou moins directe, avoir des outils démocratiques à sa disposition pour mieux gérer l'immensité de son territoire ainsi que toutes les richesses qui sont contenues dans le sol, le sous-sol et surtout au niveau des eaux et de nos forêts. Donc, comme acteur de la démocratie, je suis plutôt en faveur d'une démocratie qui se voudrait être réellement celle respectueuse des normes que nous-mêmes, population, avons établies et qui sont contenues dans notre constitution. Voilà.
Merci, maître Stéphane Kamundala. C'est en 1990 que la plupart des pays africains ont adopté ces régimes politiques. 33 ans après une longue transition à l'époque du maréchal Mobutu et après une transition de 3 ans de l'époque Kabila, la RDC est à son 4e cycle électoral. Peut-on dire que ces faits suffisent pour affirmer que la RDC est sur la bonne voie en ce qui concerne les processus démocratiques?
lorsqu'on était à l'école, on nous enseignait que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si, par exemple, dans des pays occidentaux ou dans d'autres pays, d'autres continents, la population vit réellement l'histoire de la démocratie, je crois qu'au Congo, ça reste une lettre morte parce que ça ne concerne que le nom du pays, la République démocratique du Congo, mais avoir ce que vivent les populations de ces pays, apparemment, ça n'a rien à faire avec la démocratie parce que c'est une sorte de dictature sous une autre forme qu'on est en train de vivre, bien qu'on peut peut-être dire qu'il y a certains aspects de la démocratie qui sont respectés d'une manière aussi à prendre avec beaucoup de réserves, notamment l'histoire des élections. On a vécu les trois cycles des élections. Ok, c'est pour permettre à ceux qu'à un moment donné, l'on ait des alternances, l'on vive des alternances à la tête du pays, mais vous allez vous rendre encore compte par la suite que là-dedans, il y a beaucoup de magouilles. On proclame ceux qui n'ont pas été élus, on laisse passer les gens qui ne méritaient pas être parce qu'il faut des influences par-ci par-là. Et cela peut me pousser, moi, de dire qu'en RDC, il y a beaucoup où on vit la démocratie. Je crois que peut-être c'est une réalité qui se vit dans d'autres pays et dans d'autres continents, pas en Afrique généralement, et pas en particulier en RDC. Comment nous pouvons vivre les cas qu'on va traiter bientôt là, autant d'arrestations arbitraires, des arrestations qui ont trait aux problèmes politiques dans un pays qui se dit démocratique. Je peux aussi apprécier une chose, parce qu'il ne faut pas être toujours négativiste, hein. Bon, on laisse quand même la parole à tout le monde de parler comme on veut, bien qu'à un moment donné il y a des dérapages, mais au moins les deux aspects-là, élection et puis liberté des paroles, à un moment donné, bon, les deux éléments peuvent me pousser à dire que quelque part, on peut parler de la démocratie, la République démocratique du Congo. Mais les autres aspects, parce qu'il s'agit d'une question complexe, en tout cas, ne sont pas pris en compte. Et donc, pour nous, dans les cadres de la société civile humainement, on ne peut pas dire qu'on vit réellement la démocratie, tant en Afrique qu'en République démocratique du Congo.
Merci, Madame Anna Sylvestre. La démocratie, c'est aussi la tolérance, la liberté d'expression, également le respect des droits fondamentaux. Au vu de ce qui se passe dans les pays africains, peut-on considérer que l'Afrique a fait des avancées ou a plutôt reculé sur le plan démocratique?
Je pense qu'il est difficile de tirer une conclusion totalement globale. Il y a des réalités diverses en fonction des pays et la situation, par exemple, en Tunisie, est assez inquiétante du point de vue de la démocratie, mais elle est très très différente de celle qui prévaut en RDC, où il y a des points d'inquiétude aussi. Je pense que en ce moment où on célèbre la démocratie, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a effectivement de grandes interrogations à se poser. Théoriquement, on y reviendra à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est-à-dire normalement à un moment important pour la démocratie dans chacun des pays, puisque c'est le moment où le peuple peut exercer son pouvoir. Et à quelques mois de cette élection, théoriquement qui doit avoir lieu en décembre, il y a quelques points d'alerte. D'abord, il y a la précédente présidentielle qui était entachée d'un certain nombre de soupçons. Et puis, il y a plein de points, et on y reviendra, mais effectivement, il y a le sort de notre confrère, Sani Boujakira Tchimala, qui vient d'être incarcéré. C'est effectivement extrêmement inquiétant et on se demande ce que le gouvernement de République démocratique du Congo veut envoyer comme signal. Au niveau du continent, pour vous répondre, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'interroger quand on voit les différents coups d'État, notamment qu'il y a eu lieu au Mali en 2020, puis au Burkina Faso, en Guinée, au Niger très récemment et également au Gabon. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une crise forte, que les pouvoirs en place sont, l'objet d'une forte défiance de la part du peuple, et que même des élections, si on pense au cas du Gabon, même des élections ne suffisent pas à faire la démocratie. Quand des élections sont soupçonnées d'être truquées, d'être complètement pipées, Eh bien, on ne peut pas dire que c'est la démocratie. Donc, pour conclure, j'aurais envie de vous dire que la démocratie, c'est quelque chose qui se conquiert chaque jour par le peuple, que ce soit d'ailleurs sur le continent africain ou ailleurs dans le monde. C'est quelque chose qui n'est jamais acquis et qu'il faut chaque jour conquérir.
Merci. On prend une petite pause. Hein. Comme l'une des caractéristiques de notre démocratie est le multipartisme, on va écouter cette chanson d'Alpha Blondy, Multipartisme, et on revient juste après. C'était Multipartisme avec Alpha Blondie, ce célèbre chanteur et compositeur ivoirien. On revient à l'actualité de cette semaine. Le journaliste Stanny Boujakira a été transféré à la prison centrale de Makala jeudi 14 septembre dernier. Après plus de 48 heures au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe, le directeur adjoint d'actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques poursuit sa détention préventive en prison en dépit de divers appels relatifs à sa libération de la part des associations des journalistes, des ONG, des H, des diplomates et organisations internationales dont les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. La justice campe sur sa position. Elle insiste pour que les journalistes divulguent sa source d'information dans l'enquête en cours sur la mort de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okendi. Blaise Zainda, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes manager des médias, vous avez opté pour ce sujet, on sait que le dossier est encore, n'est-ce pas, en cours d'instruction comme on l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous au sujet de ce dossier, Blaise Zainda?
Voilà, je voudrais partager une indignation, je voudrais partager une tristesse, je voudrais aussi partager une inquiétude au sujet de la démocratie, et particulièrement en ce qui concerne la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez si bien dit, Stanny Boujakira Tshamala est un journaliste chevronné, jeune au niveau de l'âge, certes, mais pétri des talents indéniables sur le plan professionnel. Il est directeur de publication adjoint de Actualité.cd, il est correspondant de Jeune Afrique, mais aussi de Reuters, l'agence internationale britannique. C'est-à-dire que ce sont des éléments ou des structures qui sont réellement crédibles et qui ne peuvent pas prendre n'importe qui. Stanley Boujakir est arrêté de manière illégale, on peut se le dire ainsi. C'est vrai, nous sommes en phase d'instruction, mais comment voulez-vous que l'on arrête quelqu'un sur base d'éléments qui ne sont pas portés à sa connaissance? Il voulait prendre son avion pour se rendre à Lubumbashi, selon les informations reçues de son organe de presse, actualité.cd, et on vient l'arrêter sans qu'au préalable il n'y ait eu un mandat d'arrêt ou je ne sais pas quoi, sans qu'il n'y ait eu une invitation, c'est-à-dire aucune des procédures n'a été respectée jusqu'alors. Monsieur est gardé est placé en garde à vue durant pratiquement 7 jours, et cerise sur le gâteau, hier, il est ramené à la prison centrale de Makala. Mais on se pose des questions sur les faits qui lui sont reprochés. On apprend qu'il s'agirait de propagation des faux bruits et de diffusion d'une fausse information. Mais quel est le faux bruit ou quelle est la fausse information que Stanley Boujakir Tshabalala aurait diffusée? Si on s'en tient au fait que monsieur est correspondant de Jeune Afrique, qui a balancé un document qui évoquerait ou qui évoque les conditions de meurtre ou d'assassinat des chérubins en Kéndé, les conditions qui l'ont conduit à la mort, est-ce que on s'en tient au fait que, par présomption, on se dit, bon, ok, Jeune Afrique a, comme correspondant à Kinshasa, Stanley Boujakir, on l'oublie qu'il a aussi des confrères qui sont aussi des Jeunes Afriques, qui sont ici à Kinshasa, mais pourquoi seulement ça devrait porter sur Stanley, qui, lui, se base sur un document produit par sa rédaction, qui s'avère être Jeune Afrique, qui n'est pas signé par lui. Vous êtes journaliste, Guy Batté, et la consoeur se trouve à Paris, est aussi journaliste. Quand on endosse la responsabilité d'un article de presse, on le signe. C'est-à-dire qu'on porte sa signature pour dire « c'est moi qui ai écrit ceci sur base des éléments qui sont en ma possession. Je peux dire ceci, je peux dire A, je peux dire B, je peux dire C. » Mais Stanley n'a jamais, alors il n'a jamais produit cet article-là. Il n'est pas signé par Stanley Boujakir Tshabalala. Et lorsqu'on on voudrait porter atteinte pratiquement à la personne, il faudrait se poser la question si c'est cette personne qui est incriminée.
Blaise
la
Zahinda.
Personne. Oui.
Oui, justement, ses avocats affirment que le dossier est vide. Et si c'est le cas, pourquoi on continue à les détenir? Ça pourrait être quoi, à votre avis, les dessous des cartes?
Oui, parce que même nous autres, moi je parle à deux titres, je suis son confrère. Mais il est aussi membre d'une association, les journalistes qui sont actifs sur le terrain, qui s'appelle JA Journalistes en Action. Il est membre de cette association dont je suis le président. Et j'étais le premier, parmi les premières personnes à dénoncer cette arrestation. On accuse Stanley, selon les informations reçues et ses avocats, d'être l'auteur d'un faux document qui aurait évoqué les conditions d'assassinat des chérubins en Kéndé. Or, s'il s'agissait d'un faux document, Stanley n'en est pas l'auteur. Il n'est ni l'auteur du document, encore moins l'auteur de l'article, lequel article a été repris par toute la presse le lendemain, mais avec comme source principale Jeune Afrique. Mais pourquoi on ne pose pas des questions au directeur de publication de Jeune Afrique? Et encore qu'on viole des dispositions qui portent sur nous, journalistes, en ce qui concerne la liberté de la presse, par rapport à la dernière loi Mouyaya, qui affirme que quelle que soit la faute d'un journaliste, avant de l'arrêter, il faut qu'au préalable, les organisations professionnelles soient mises au parfum et mises à contribution pour que nous parvenions à trouver d'abord une issue favorable au lieu d'aller directement vers une arrestation. Ce sont là des éléments qui nous poussent à croire qu'il s'agit d'un dossier vide et on arrêterait Stanley ou on le garde en détention simplement parce que, selon les informations reçues, monsieur aurait refusé de divulguer la source ou de dire qui lui aurait donné ces documents qui, entre guillemets, selon les gouvernements et les services attitrés, serait un faux document. Mais est-ce que c'est lui qui a diffusé le document? Non. Alors, ce qui pousse effectivement les avocats à dire qu'il s'agit d'un dossier qui, visiblement, est vide.
Merci. Merci, Maître Stéphane Kamundala. Vous êtes membre de la société civile, président de la société civile Force Vive de la province du Maniema. Vous êtes également avocat au barreau établi près la cour d'appel de la même province. Vous êtes praticien des droits. Et quand on dit que le dossier est vide, mais qu'en dépit de cela, l'accusé est maintenu en détention, cela peut signifier quoi pour vous, praticien des droits?
Bon, d'abord je commence par présenter mon indignation, ma révolte, lorsque j'entends la narration des faits qui est donnée par mon confrère, mon co-débatteur, que j'aime beaucoup, quand je l'entends et je le suis. En tout cas, c'est révoltant. En droit pénal, plus précisément, nous avons une formule qui dit que la responsabilité égale l'imputabilité plus la culpabilité. Il est anormal, alors très anormal, que quelqu'un soit arrêté par rapport aux éléments qui sont donnés par Blaise, qui révoltent et qui violent sur toutes les lignes la procédure pour en arriver à la décision d'arrestation de quelqu'un. Il est vrai que l'article existe. Il est vrai qu'il a sa source de provenance. Il est vrai que Moudjakira est un correspondant de Chinois, comme je venais de l'apprendre. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui est l'auteur de l'article? Et alors qu'à un moment donné, tout le monde est présumé innocent. On ne peut pas en arriver à arrêter quelqu'un lorsque les indices de culpabilité ne sont pas établis de manière non contournable. Alors, nous sommes en train d'aller dans un état d'injustice et je ne vois pas comment on peut arrêter quelqu'un. Et si on allait très loin, est-ce qu'il y avait déjà ouverture d'un dossier contre l'ami qui est en détention? Est-ce qu'on a signé un mandat d'amener contre lui? Est-ce qu'on l'a auditionné en bonne et due forme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu à dénoncer cela, bien qu'il ait connu que le ministère public est à la recherche des infractions? Est-ce qu'il a été dénoncé par qui pour en arriver à ce niveau-là? Vous allez comprendre, comme on venait de le dire tantôt, que nous parlons de démocratie, que des noms, mais on se règle des comptes et on essaie d'étouffer les voix des personnes qui sont considérées comme gênantes. Et moi, personnellement, dans le cadre de la société civile, nous nous opposons à cette procédure et nous réclamons et demandons tout haut la liberté sans condition du journaliste Moudjakira. Parce que ce n'est pas de cette façon cavalière qu'on peut arriver à arrêter quelqu'un qui, du reste, jusqu'à preuve du contraire, tant que le juge n'en décidera pas autrement, et demeure innocent. Et donc, je vais alors exhorter les journalistes avec leur corporation, qui vont être, bien entendu, encouragés, si pas associés à la société civile, d'aller très loin à dénoncer, comme nous sommes en train de le faire maintenant là, ces comportements. Le pays ne va pas être sauvé avec des comportements de ce genre. Le pays ne va pas avancer lorsqu'on veut étouffer, museler la presse. Nous devons parler très haut, ce que les autres disent tout bas. Bref, on ne parlera pas, en ce moment-là, on ne parlera pas d'un procès équitable. Parce que tous les principes d'un procès équitable sont en train d'être violés progressivement. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de la société civile, nous sommes de cœur avec les concernés, les culpés. Nous compatissons avec lui dans sa difficulté et nous pensons que le moment venu, nous allons nous joindre à ceux qui mèneront des actions pour sa liberté parce que c'est un droit légitime et inaliénable pour lui.
Merci Madame Anna Sylvestre, journaliste au journal Le Monde. Vous êtes chef du service Afrique. Même si l'arrivée Kestani recouvre sa liberté, à votre avis, quelles pourraient être les répercussions de cette arrestation sur le travail des médias en RDC?
Oui, je me permets, pour clarifier les choses auprès de vos auditeurs, de vous dire que là, en l'occurrence, je vous parle à plusieurs titres, effectivement, au titre du fait que je dirige le Monde Afrique, mais aussi, je pense, au titre du fait que j'ai eu l'honneur, la chance de travailler avec Stanis précédemment, dans des fonctions antérieures, et je le connais donc personnellement, et je peux vous assurer que Stanis est un très grand journaliste qui fait preuve d'un immense professionnalisme. Et aujourd'hui, alors que cela fait maintenant plus d'une semaine que maintenant Stanis est retenu et maintenant emprisonné à Makala, j'ai évidemment une immense pensée pour lui, je le sais, je l'ai fait fort et courageux, mais j'ai une immense pensée pour lui et je ne peux m'empêcher de penser que c'est justement parce qu'il est un des meilleurs journalistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière, qu'il est aujourd'hui incarcéré et qu'on est bien là, très très loin du droit, et que ce n'est pas dans cette affaire le droit qui préside à l'incarcération de Stani, mais mes camarades que vous avez invités ont bien résumé, je pense, la situation, mais il faut le souligner, Stani, on lui reproche un article qu'il n'a pas signé, Donc je ne vois pas en quoi il devrait être comptable de cet article, d'autant qu'il faut le rappeler, hein, tout un chacun, un gouvernement ou bien même un citoyen lambda, si jamais il voit une information le concernant qui lui semble erronée, il a beaucoup de voies de recours. Le gouvernement congolais ou les services de renseignement auraient très bien pu dire « Attendez, je vous fais un démenti, je vous demande un droit de réponse, j'entre en contact avec cette rédaction. » Il y a beaucoup de moyens que l'on peut utiliser avant d'emprisonner un journaliste, vous voyez, et aucun de ces moyens n'a été utilisé. Et puis, demander une source à un journaliste, ça c'est formellement interdit. Comment voulez-vous que nous, les journalistes, nous fassions notre travail si nous ne pouvons pas protéger les gens qui nous aident à avoir des informations? Je crois que le droit à l'information, le droit donc à la liberté de l'information, à la liberté des journalistes, est aujourd'hui en grave danger en RDC avec l'incarcération de notre confrère. Et je ne peux qu'espérer que les autorités judiciaires et les autorités politiques du pays vont vite, très vite, revenir à la raison et se rendre compte, comme le disaient mes camarades, qu'il n'y a rien dans ce dossier et que cette incarcération est tout à fait abusive. Je suis sûre qu'ils vont s'en rendre compte et qu'ils vont remettre très très vite Stani en liberté. Je crois que le signal à quelques mois de l'élection présidentielle est extrêmement inquiétant pour les journalistes et pour la liberté de la presse. Et donc je pense que c'est même au président Félix Tshisekedi là de faire un geste fort et de montrer que lui en tant que président et que lui peut-être en tant que héritier de son père et de l'UDPS, il est temps de montrer ce qu'il souhaite comme modèle pour la RDC et donc d'agir pour que les journalistes puissent exercer en toute liberté dans le pays. Je pense que vraiment là on attend un signe de sa part.
Oui, je vous ai posé une question. Si cette affaire s'est terminée aujourd'hui ici, Stani Boujaker a arrivé à recouvrer sa liberté, est-ce que vous pensez que cette affaire peut se terminer sans conséquences sur les travaux des journalistes et en RDC?
Je pense que dans les temps qui viennent, quand bien même Stani serait libéré, effectivement, je l'espère d'un instant à l'autre, je pense que les confrères vont exercer avec peut-être... Plus de crainte, voilà, peut-être moins librement. Vous savez, la pression, l'intimidation, vous le savez, Guy, qui êtes vous aussi journaliste, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Mais nous sommes tous humains et il n'est pas simple de faire fi des intimidations et de la pression. Et dans des moments politiques tendus dans des pays, c'est à ce moment-là que les pressions et les intimidations sont les plus fortes. Alors, comment, après cette arrestation qui émeut toute la profession, mais pas que la profession, rappelons-le, de très nombreuses chancelleries ont demandé la libération de Stani, de très nombreuses ONG ont également demandé sa libération, je crois qu'il y a quand même unanimité sur la question, évidemment, je pense que nos confrères vont avoir plus de craintes dans l'exercice de leurs fonctions dans les temps qui viennent.
Merci, merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale, comme vous le savez. L'artiste et musicien Jossar Nyokalongo fête ses 70 ans d'âge ce mois de septembre. Et à cette occasion, nous allons donc écouter l'une de ses compositions intitulée Zekira. Et on revient juste après.
Kanda la jambe, eko ya mwasi ata kopiki sangai, na
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la Journée internationale de la démocratie. Nous avons également analysé l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera. Participe à cette émission, Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant et manager des médias. Maître Stéphane Kamundala, il est membre de la société civile et le président de la société civile Force Vive de la province du Maniema. Il est également avocat au barreau établi près la cour d'appel de la même province. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et le chef du service Afrique. De nouveaux affrontements sont signalés depuis quelques jours entre les rebelles du M23 et les Wazalendo dans les agglomérations de Rutshuru et Rutshege. C'est dans le groupement des Tongo en territoire de Rutshuru. Les bilans n'est pas encore connu, mais des sources locales parlent d'un déplacement massif des populations et l'enlèvement des deux personnes. Les notables de Rutshuru demandent non seulement la libération de ces civils, mais aussi au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'en finir avec la rébellion du M23. Madame Anna Sylvestre, vous avez opté pour ce sujet. On vous écoute.
Oui, tout à fait. Écoutez, je voulais qu'on reparle un petit peu de la situation sécuritaire dans l'Est, qui malheureusement les violences se poursuivent, s'éternisent même, et c'est les populations qui en payent le prix. Ça fait maintenant près de deux ans, ça va bientôt faire deux ans en novembre que cette nouvelle offensive du M23 a repris. Et semble-t-il, pour l'instant, toutes les mesures prises par les autorités congolaises sont encore insuffisantes pour tenter de ramener une sorte de voilà d'accord, d'agrément, d'agreement, j'allais dire, avec la rébellion du M23. ces informations qui nous parviennent et qui sont encore parcellaires, hein, puisqu'elles n'ont que quelques heures, quelques jours, posent aussi une question quant à ces groupes d'autodéfense. On est aujourd'hui avec une myriade de groupes, de rébellions pour certains, de groupes d'autodéfense pour d'autres, etc. Et on se rend bien compte que cela provoque un certain chaos et que ce sont à chaque fois les populations civiles qui en payent le prix le plus fort.
À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les FRDC semblent avoir cédé la place aux groupes armés locaux, notamment les Wazalendo, qui ont pris pratiquement les devants parce que, en fait, ce sont ces groupes armés qui combattent effectivement les M23. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
En fait, on s'interroge effectivement. On se demande si les FRDC n'ont pas les moyens, en termes notamment humains, en termes d'effectifs, en termes aussi de matériel, pour réussir à se déployer suffisamment pour combattre ces rébellions comme celle du M23. Cela dit, le fait de confier à des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire pas à des militaires professionnels, la riposte militaire, me semble être un phénomène assez inquiétant. Il n'y a pas que en RDC qu'on voit ça, hein. Je pense par exemple au Burkina Faso, qui est dans une situation certes très différente, mais où le président a recruté plusieurs dizaines de milliers de volontaires, qu'on appelle là-bas les volontaires de la patrie, pour combattre à côté ou en lieu et place de l'armée les groupes djihadistes. Là-bas, ce sont les groupes djihadistes dont on parle. Eh bien, moi, je pense que cela interroge, et cela interroge d'abord parce que faire la guerre, combattre, c'est un métier. Et il y a des règles, c'est pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, sinon, malheureusement, on s'expose à des dérives, à des exactions, à des atteintes aux droits de l'homme. Et puis, par ailleurs, moi, cela m'interroge également sur l'après. Si ces groupes d'autodéfense, par exemple, parviennent à battre le M23, ces gens qui ne sont pas des militaires, à qui on a confié un pouvoir, à qui on a confié parfois des armes, etc., vont-ils accepter de rendre ce pouvoir et ces armes? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de dérives qui sont possibles dans ces cas-là.
Merci, Maître Stéphane Kamundala. Depuis plusieurs mois, on assiste à un statu quo. On a l'impression que les choses n'évoluent pas sur le terrain. Et n'y a-t-il pas risque que les gens s'habituent à cette situation, Maître Stéphane Kamundala?
La société civile, force civile des 5 provinces de l'Est, je cite Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, Tanganyika et Maniema. Nous nous sommes réunis, tous les présidents à Kinshasa, avec un agenda, un document qu'on voulait remettre au président de la République, et dans lequel on était en train d'insister sur la faiblesse de nos forces armées de la République démocratique et du Congo. Et on a dit, ce n'était pas une question d'hommes, parce que les hommes sont capables de combattre, mais c'était une question de la gestion par les autorités hautement supérieures de ces hommes. Ça, c'est un. De deux, nous avons compris qu'à un moment donné, le gouvernement, avec bien sûr le président actuel, est en train de donner des moyens, mais est-ce que tous les moyens qu'on est en train d'envoyer à ces hommes qui sont sur le terrain leur parviennent? Une autre manche de médaille. Mais la question qu'on s'est toujours posée au niveau de la société civile, en 2012, avec l'avènement de Mamadou, tous ceux qui se disent aujourd'hui M23, étaient défaits, et puis pour la plupart, ils étaient morts, et d'autres étaient partis comme réfugiés, si pas exilés, dans les pays voisins, principalement le Rwanda. Alors on se pose mille et une questions de savoir. Il y a eu un nombre réduit de personnes qui ont fui parce que battues par les événements de Mamadou. Comment, à partir d'un camp au Rwanda, où ils étaient au moins gardés, dans un pays étranger, pouvaient-ils au moins être augmenté en termes de nombre, des effectifs? Comment pouvait-il se ravitailler en termes d'armes? Comment pouvait-il avoir les moyens, c'est-à-dire les tenues, je ne sais pas, les véhicules, les chars, j'en passe, et jusqu'à décider, à partir d'un pays étranger, de prendre les armes, de circuler avec elles dans un pays étranger, et jusqu'à venir attaquer un pays qui n'est autre que la RDC? Il y a une complicité internationale dans ce que la RDC est en train de connaître comme problème. Et je ne crois pas
Et lorsque la communauté internationale est derrière, parce qu'il faut le dire avec des précisions, tout en étant de la société civile, un chrétien n'a jamais dénoncé officiellement cette situation, n'a jamais cherché à contribuer, mais condamne ou émet des avis par rapport au gouvernement congolais, là c'est vivre l'hypocrisie.
Maître Stéphane, je vous ai posé la question de savoir que depuis plusieurs mois, on assiste à un statu quo. Hein. Les choses ne semblent pas évoluer sur le terrain. Est-ce que les gens ne vont pas s'habituer à cette situation? Ce n'est pas ça le risque.
Merci. Je voulais dire que si, merci d'avoir recadré. On a été à Nairobi, M. Guimaté. Et à Nairobi, on a été avec les Maïmaï. Les Maïmaï qui étaient prêts à déposer les armes, les processus étant, bien entendu, intéressants pour eux. Mais il y avait un cessez-le-feu, semble-t-il, mais des retours de Maïmaï, pendant que le PDDSS devrait commencer, des retours de Nairobi plutôt, vous devrez commencer à déposer les armes. Il y a eu les M23 qui s'est improvisé, et alors la RDC a été prise à pied levé, et il y a les Ouazalendo, les Maïmaï, les groupes armés qui sont là-bas, qui prennent la place et les lieux de l'État congolais. Nous allons déplorer que les gens s'habituent à cela. Et nous avons toujours mené des séances et des sensibilisations pour ce qui concerne les Maniema principalement, pour que les gens déposent les armes. Mais les réponses qu'on reçoit, c'est de dire, par exemple, pour ce qui concerne les Maniema, comment vous nous demandez, nous, de rendre les armes et de laisser un couloir aux étrangers ou au M23, appuyé par les Rwandais, de venir tuer les gens, prendre des espaces. Tant que la guerre qui est soutenue par les Rwandais n'aura pas pris fin, nous ne saurons pas non plus déposer nos armes. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler de quelques complicités. Et donc, c'est une question complexe, très délicate. Là où on doit savoir d'où viennent les éléments étrangers qui attaquent les pays, et de sorte que nous, on soit aussi forts à décourager les comportements des Maïmaï et des Ouazalendo à ne pas continuer à se comporter comme s'ils étaient de militaires loyalistes.
Merci. Blaise Zainda, on ne sent plus des initiatives dans le sens de mettre fin à cette guerre, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, moins encore sur le plan international. Et apparemment, personne n'arrive à proposer, n'est-ce pas, une alternative réaliste et efficace. Comment vous expliquez cela?
J'apprécie beaucoup la pertinence de vos questions, mon estimé confrère Guy Maté. Effectivement, on ne sent plus rien, on est dans les statu quo. On est dans les statu quo, il y a la prolongation du mandat de force de l'EAC, Eastern African Community, et il y a aussi en même temps, on continue à tenir des paroles que moi, je considère comme étant tout simplement politiques, diplomatiques, pendant que sur le terrain, on ne sent pas d'évolution, à part ce que nous avons pu déceler comme envie de part et d'autre de parvenir, en ce qui concerne les chefs d'État, de trouver une solution à cette situation. Mais au fond, nous demeurons dans le statu quo. Et ce qui est grave d'ailleurs, je m'en tiens aux dernières déclarations tenues par Bissimwa, qui s'avère être le président du M23, il dit, il a pressenti, selon les informations à sa possession, que les FARDC attendent attaquer ou se préparent à attaquer les forces rebelles négatives du M23. Et lui aussi, il dit que, ben voilà, ils sont aussi prêts à réagir quant à ceux. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que nous arrêtions de demeurer dans cet état de choses. Parce que si on continue comme ça, en même temps on parle des élections, en même temps on parle de ceci, c'est-à-dire qu'il y a des millions de Congolais qui ne vont pas voter, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi ne voteront pas, ce qui porte atteinte à la crédibilité de ce processus électoral, même à la crédibilité des personnes qui seront votées ou qui découleront, qui émaneront de ces processus électoraux, parce que beaucoup de Congolais ne se représenteront pas ou ne se reconnaîtront pas dans les nouvelles autorités qui vont diriger ce pays. Et moi, ce que je dénonce, c'est cette histoire de Ouazalendo. Particulièrement, c'est vrai que nous, comme Congolais, tous voudrions à ce que nous puissions disposer d'un pays où il fait beau vivre, où il y a la paix, mais les éléments liés à la défense de la souveraineté de la nation, l'intégrité territoriale, ne sont pas des éléments qui sont dévolus à un groupe d'individus non encadrés. Ce sont des éléments qui sont dévolus à une structure bien encadrée qu'est l'armée, que sont les forces armées de la République démocratique du Congo, qu'est la police nationale congolaise. Moi, je n'encourage pas ces personnes que moi, je considère, en tout cas, en son temps, on considérait tous ces groupes armés comme étant des forces négatives. Et cette considération doit être d'actualité. Je dénonce que certaines autorités puissent donner une certaine carte blanche à ces personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas nous représenter, aussi bien elles puissent avoir une volonté quelconque d'en découdre avec ceux qui veulent attaquer le pays ou bien qui veulent amener une balkanisation, je ne sais pas quoi, mais elles n'ont aucune légitimité pour prester en lieu et place des forces armées et républicaines. Et cela donne d'ailleurs, malheureusement, cela donne des arguments aux rebelles du M23 qui disent combattre soit FDLR qui s'est mu selon les M23 en Ouazalindo, ainsi de suite, et cela n'aide pas le pays à avancer, ça ne nous aide pas à aller de l'avant.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Jour d'épée des Black Renegades et on revient juste après.
Juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après qu'on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les femmes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui rendez pas vos cas.
J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante. Qu'aime la vie, mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, quand tu auras des hommes et des femmes qui s'aiment. Ton cœur, c'est pas une télécommande. Mais on veut tous une femme présente, même dans la tourmente. Chacun regagne son domicile, comme des tranchées. Ta couleur de peau, de faire de toi un étranger, tu trouves ça normal? Moi, je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens, mais libre au moins. Au fond de moi, j'ai du mal à comprendre. Quand je vois ces mots mal vécu, mal nourri, victime de maltraitance, vitrine, mon cadre de vie. Rongé par le trafic, l'amour au compte-goutte comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du pompier. Traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier.
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après qu'on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez les âmes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui rendez pas vos âmes.
Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible.
En tant que l'assaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable, j'ai des coups de tombat. Je lâcherai pas l'affaire, non, je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe Babylone.
Je suis un être humain comme tout le monde. Je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles, ça s'agisse. Je vois de la joie au lieu de la haine dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos et vois ce qui se passe sur d'autres continents. Je vis là où les jours se confondent avec la nuit. Là où aussi on laisse peu de chance aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire. Dès leur enfance, bercés par la colère d'un père. Toutes nos valeurs sont écoulées dans les yeux. Une violence urbaine au milieu.
C'était Jour d'épée du groupe 113 des Black Renegades, un groupe musical français. Je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant et manager des médias. Maître Stéphane Kamundala, membre de la société civile, il est président de la société civile Force Vive de la province du Maniema. Il est également avocat au barreau établi près la cour d'appel de la même province. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde, elle est chef du service Afrique. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a ouvert samedi 9 septembre à son siège à Kinshasa les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC pour l'élection présidentielle. Depuis les petites heures de la matinée, des dispositions sécuritaires ont été prises, notamment une importante présence de la police et la limitation de la circulation devant les sièges de la CENI. Dès les premiers jours, ce samedi, trois candidats étaient arrivés au BRTC. Il s'agit de Matata Ponyo, président du parti politique d'opposition Leadership et gouvernance pour le développement LGD en sigle, Constant Mutamba, président du parti politique d'opposition dynamique et progressiste d'IPRO en sigle, et Rex Kazadi, peu connu dans la sphère politique d'après certaines sources, il serait de la diaspora congolaise en Europe et proche de l'UDPS. Maître Stéphane Kamundala, vous avez souhaité nous parler du sujet relatif au processus électoral en RDC en les formulant ainsi: les élections du 20 décembre 2023 réalité ou utopie. On vous écoute.
Merci, monsieur le journaliste Guy Maté. Nous avons préféré parler de ce sujet-là parce que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit un cycle des élections tous les 5 ans. Nous l'avons vécu en 2006, en 2011, en 2018. Maintenant, nous sommes en train d'attendre les cycles du 20 décembre 2023. Et nous, dans nos analyses objectives, nous pouvons les estimer ainsi, nous avons commencé à avoir beaucoup de doutes de voir au moins les élections se réaliser ou se tenir en République démocratique du Congo. Tenez, nous avons une CENI composée par des membres qui ont connu un retard de 24 mois d'élection et commencé à tenir les réunions normalement. Il vous souviendra qu'à un moment donné, nous avons connu l'histoire de Ronsard Malonga, qui a été contesté à un moment donné, retenu, ça bouffait suffisamment le temps, et jusqu'à avoir 24 mois, si pas 28, de retard par rapport à la constitution et à l'effectivité de l'équipe Denis Kadima. Nous avons vécu les éléments d'enrôlement avant. En vivant cela, beaucoup de cas d'irrégularité ont été constatés que les choses n'allaient pas comme il se doit. Nous avons enquêté 28 mois. Le processus d'enrôlement et d'identification n'a duré qu'un mois et quelques jours, alors que dans les cycles passés, c'était 3 mois. Nous avons constaté que l'argent, c'est le deuxième élément, les moyens qui doivent être mis à la disposition de la CENI ne les sont pas encore en totalité. Ce qui va faire que la CENI ne va pas opérer les miracles pour, je ne sais pas, recourir à quel autre organe, si pas au gouvernement national, de lui doter des moyens qui sont au moins requis pour organiser les élections à RDC. C'est le deuxième élément. Deuxième élément. Le troisième élément. Comment on a commencé à inviter les gens à déposer les candidatures pour la députation nationale? On a commencé le 1er juillet 2023 pour un mois. Je n'ai jamais appris qu'il y a une liste définitive des députations législatives nationales. Au mois d'août, on a eu au moins le dépôt de candidature des députés provinciaux, avec, bien entendu, les conseillers urbains. Maintenant, depuis les 2 ou les 3 de ces mois, on a commencé le dépôt de candidature à la présidentielle. Et ceci va aller jusqu'au 8 octobre. Maintenant, la question qu'on se pose, on est en octobre, on affiche la liste provisoire. En affichant la liste provisoire, il y a des contentieux, des listes qui doivent s'en suivre. Après, il y aura la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République. Le temps pour la CENI de prendre contact ou de lancer l'appel d'offre pour l'entreprise ou la société qui va fabriquer les machines à voter, mettre ces données à la disposition de l'entreprise qui va fabriquer les machines. Alors que nous serons au-delà du 15 octobre, la campagne électorale doit commencer le 19 novembre. Et donc, dans un mois pratiquement. Comment? Dans un mois, on va passer la commande des machines, le temps pour l'entreprise qui va être sélectionnée de fabriquer les machines, le temps pour le pays de payer l'argent pour couvrir les transports de ces machines, de la société ou du pays où les machines vont être fabriquées vers la RDC. Le temps pour la RDC d'amener ces machines ou de transporter ces machines jusqu'au bureau de vote avec les impératifs que nous connaissons tous par rapport à l'état de délabrement total de nos routes. Il n'y a plus la Monisco qui essayait de donner un coup de pouce au gouvernement pour faire parvenir ces machines par-ci par-là. Nous avons les problèmes qui venaient d'être évoqués par l'un des co-débatteurs, Madame Anan, si je m'abuse, par rapport à l'état des sièges dans les 2 provinces, Nord Kivu et Ituri. Bref, avec d'autres amples détails et éléments, nous arrivons, nous, comme société civile de la province de Maniema, à dire, je ne crois pas que ce sera non sans raison, que les élections du 20 décembre vont demeurer utopiques, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui n'ont pas été prises en compte par le passé ou à temps, mais dont on cherche bien sûr à combler ou à rattraper, et pourtant c'est trop tard. Même si l'on peut dire que tel ne va pas aller aux élections parce qu'il a ses raisons,
mais aussi le fichier électoral pose des problèmes. Ça fait plusieurs fois que tout le monde n'est pas unanime par rapport à ce fichier électoral. Il y a nombreux et beaucoup de gens qui disent qu'il fallait un audit externe et non pas ce qui a été fait, qui est considéré des mafieux. Alors, autant d'éléments ramassés nous poussent à dire en conclusion que les élections du 20 décembre ne seront pas une réalité au regard de ces contraintes, mais pour nous, on pense qu'elles sont utopiques. Voilà ce que nous voulions dire et faire comme commentaire.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Comment vous réagissez lorsque vous écoutez Maître Stéphane Kamundala en train d'évoquer un certain nombre de facteurs qui peuvent empêcher la tenue des élections de décembre 2023?
Je pense que le point de vue de notre camarade est largement partagé par un certain nombre d'observateurs et d'acteurs, et toutes les interrogations, disons, tous les dysfonctionnements qu'il a pointés sont exacts. Aujourd'hui, il y a effectivement une interrogation quant à ces élections et sa tenue dans les délais impartis. Évidemment, la RDC a encore en tête, évidemment, le glissement un petit peu interminable qui avait eu lieu lors de la précédente élection présidentielle. Et chacun s'interroge si glissement il y aura à nouveau et comment, dans quelles conditions aussi vont se tenir ces élections. Du côté de la commission électorale, on est obligé de se rendre compte que Denis Kadima, le président de la CENI, se veut rassurant. Lui, dit-il, il veut en finir avec ces élections et il promet que cela sera fait dans les temps. Il a d'ailleurs convoqué dans les temps le corps électoral. Encore faudra-t-il savoir si cela suffira, hein. Cela fait maintenant des mois et des mois qu'on parle éventuellement d'un report, et puis encore une fois dans quelles conditions cela aura lieu, quelle va être l'attitude de l'opposition, quelle va être sa décision, le scrutin va-t-il pouvoir se tenir dans toutes les provinces du pays. Tout cela, ce sont des interrogations majeures qui d'ailleurs nous renvoient au début de votre émission quand vous nous parliez de démocratie. Tout cela, c'est évidemment, ça fait partie du fondement d'un scrutin.
Merci Blaise. Zaïna, on va finir cette émission avec vous. À l'allure où vont les choses, comment vous entrevoyez les élections de décembre 2023? Et vous avez suivi même les présidents du Sénat lors, n'est-ce pas, de la rentrée parlementaire qui se plaignait, n'est-ce pas, des financements de ces élections. Il a même recommandé au gouvernement de pouvoir doter la CENI des moyens suffisants pour lui permettre de réussir ces élections. Comment vous entrevoyez ces élections de décembre 2023, Blaise Zaïna?
Je pense qu'au départ, il y a la consoeur Anna qui a évoqué une difficulté quand on parlait de la démocratie, et elle dit qu'il ne faille pas que les organisations soient organisées, plutôt que les élections soient organisées simplement parce qu'elles doivent être organisées. Encore faudrait-il qu'il y ait des élections de qualité et que ces élections puissent effectivement et réellement traduire la volonté de la population, la volonté du peuple. Pour le cas d'espèce, les tableaux qu'a peint mon estimé maître depuis Kindu, chef de la province du Maniema, mais les tableaux sont sombres. Quels sont les indicateurs que nous avons? Nous, comme journalistes, avons eu le privilège de couvrir les élections de 2006, nous avons couvert les élections de 2011, nous avons couvert les dernières élections de 2018. Mais à quelques jours, on est au mois d'octobre, puis ce sera novembre, à deux mois déjà, on avait une autre impulsion, on avait une température, on avait une atmosphère qui nous ramenait déjà dans un climat électoral. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les éléments logistiques posent problème. Les éléments liés, entre autres, la volonté, elle n'est traduite que par ceux qui vont prendre part à ces élections-là. Qu'en est-il électoral? Qu'en est-il des inquiétudes émises par tout un chacun? Qu'en est-il de l'exclusivité ou l'inclusivité que tout le monde est en train d'appeler? Ce sont là des éléments qui nous poussent à réfléchir. Les indicateurs ne sont pas à l'avantage, pour le moment, d'une bonne organisation, des bonnes élections pour la fin de cette année. Ou bien nous irons, autant qu'on y est allé avec la francophonie, vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas arrivés à leur terme en ce qui concerne ce jeu de la francophonie. Et est-ce de la même manière que nous allons aller à ces élections, qui sont vraiment des éléments très, très délicats et pour lesquels il ne faille pas blaguer? S'il faut organiser des élections simplement pour les organiser, ça risque de produire encore beaucoup plus de problèmes que ça n'aurait produit que si ces élections étaient organisées dans un délai raisonnable et en considérant que tout le monde prend part à ces jeux démocratiques. Si ce n'est pas le cas, vous retiendrez bien cette émission, elle est bien enregistrée. J'apprécie les professionnels de Radio Capi. Vous nous direz qu'un jour, on avait prévenu qu'à cette allure, on n'aura pas de bonnes élections.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Anna Silvestre, Maître Stéphane Kamundala et Monsieur Blaise Zainda. Merci aussi à William Lungamba qui était la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Debs Vita sous la supervision d'Alex Sommet et Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Bethlehem de Bozi Boziana, chanson sortie en 1988 de l'album Reine des Sabas dans l'orchestre Antichoc. On se retrouve le samedi prochain.
Yeah, I'm gonna get some.